Salut à tous, au sommaire de Rétrovision, nous aurons Yes de Eternal, Soccer Kid, Mésopotamia, SNK vs Capcom, Chaos, Dragster, Yu Yu Hakusho, Red Alert, et on finira avec la démo du groupe Virtual Dreams, intitulée 40K Intro. Bienvenue sur Rétrovision. Bien le bonjour, rétro gamer, rétro gameuse, on redécolle avec un épisode de Rétrovision qui a su se faire attendre un petit peu, fête de Noël oblige, mais comme dit le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Et en parlant de points, pour une fois, on ne commence pas avec un point and click, mais par un sublime jeu d'action RPG. Il s'agit de Yes de Eternal, sorti en 2001 sur PC. Ce deuxième épisode est la suite directe du premier. On reprend au même endroit où nous avait laissé la scène finale. Après avoir récupéré les 6 volumes des anciens livres de Yes, Adol doit désormais anéantir Darm, une entité maléfique qui contrôlait Dark Fect, le boss final du premier épisode. Pour mieux comprendre cette série, vous pouvez retrouver le test du premier dans le Rétrovision numéro 4 de la saison 2. Autre précision importante, Yes de Eternal est bien évidemment la version remasterisée de Yes de Ancient Yes Vanished. Les changements au niveau du gameplay sont quasi nuls, si ce n'est l'apparition d'un système de magie assez pauvre et pas spectaculaire pour un sou. Les déplacements se font en vue de dessus, à la manière d'un Zelda, et les attaques ont toujours le même principe, foncer sur les ennemis en choisissant un bon angle, si possible en diagonale. Pour avancer dans votre quête, il faudrait bien évidemment gagner des points d'expérience, avoir des armes de plus en plus puissantes et de trouver tous les coffres habilement disséminés dans cette vaste contrée. Avant de changer d'environnement, il faudra affronter, et le mot est faible, un gardien qui vous donnera du fil à retordre même si vous êtes puissamment équipé. Le meilleur moyen étant de bien prendre son temps et d'attaquer lorsque le boss est en position de relâche ou de défense. Les graphismes sont toujours aussi magnifiques et les musiques vous accompagnent agréablement à travers ce monde enchanté. Cette version améliorée de Yes 2 est une copie conforme au premier épisode. Normal, me direz-vous, puisqu'ils ont été réalisés en même temps sous l'appellation Eternal. Si vous aimez les Zelda-like, vous passerez de bons moments avec ce jeu d'action RPG, même si parfois, on a souvent l'impression de faire toujours la même chose en enchaînant les missions secondaires qui consistent à délivrer telle ou telle personne. Soccer Kid sur Amiga, édité par Chrysalis en 1993, est un jeu de plateforme où vous contrôlez un jeune sportif ayant pour arme un ballon de foot. Disposant d'un scénario ultra tiré par les cheveux, le petit footballeur devra récupérer les différents morceaux de la Coupe du Monde, maladroitement égarés par un extraterrestre avare, après que celui-ci l'ait dérobé et brisé en se crachant sur la terre. Comme vous pouvez le voir, Soccer Kid n'est pas une simulation de sport, mais plutôt un jeu de plateforme à la technicité moyennement élevée, s'étendant sur 5 niveaux, reprenant des pays dont chacun est composé de 3 sous-niveaux. Le long de votre tour du monde, vous visiterez l'Italie, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis et le Japon, ainsi que tous leurs clichés respectifs. Avant d'espérer d'aller loin, une bonne prise en main des mouvements du personnage est indispensable. Il faudra bien maîtriser le tir vers l'avant, le rebond pour se servir du ballon comme un ressort, le jonglage qui vous permet de balancer la balle un peu partout, sans oublier le retourné acrobatique. En regardant bien, on constate que Soccer Kid s'en sort moyennement côté esthétique. Les graphismes sont corrects, les personnages prennent une tournure humoristique qui aurait dû être un peu plus poussée. La partie sonore manque cruellement d'inspiration. Elle ne restera pas dans les annales des meilleures musiques sur Amiga. Heureusement, la maniabilité du petit footballeur répond bien, même avec un seul bouton. De toute manière, sur Micro, on n'avait pas bien le choix. Malgré tout, Soccer Kid s'en sort pas trop mal pour un jeu de plateforme, même si l'action peut paraître répétitive et linéaire. D'ailleurs, il fut adapté sur de nombreuses machines, comme entre autres sur Super NES, 3DO, Jaguar ou plus récemment sur Game Boy Advance. Voilà un jeu qui ne manque pas d'originalité, moi personnellement j'adore, puisque dans Mésopotamia vous dirigez un Honda Mania, ou Slinky en anglais, ces espèces de gros ressorts en métal ou en plastique fluorescent que l'on faisait tomber des escaliers et qui rebondissaient de marche en marche. Cet ovni du genre, édité par Atlas en 1991 sur PC Engine, portait le nom de Summer Assault sur TurboGrafx-16. Mésopotamia est ce que l'on pourrait appeler un jeu de plateforme labyrinthe où il faut traverser 13 niveaux et guider le ressort vers la sortie le plus rapidement possible car tous les parcours sont chronométrés. Une fois fois que vous aurez enfin trouvé la sortie, un combat acharné vous opposera contre un boss de fin de niveau, représentant un signe du zodiaque qui peut faire penser au Chevalier d'Or pour ceux qui ont connu Saint Seiya. La maniabilité est un peu spéciale car le déplacement se fait par rebonds successifs tout en restant collé sur des parois sans tenir compte de la gravité. Notre Slinky a la possibilité de sauter pour atteindre des murs voisins et de tirer des espèces de lasers pour détruire les ennemis qui lui barrent la route. Certains d'entre eux libéreront des bonus bien pratiques comme des accélérateurs, le triple tir, le ricochet ou l'augmentation de la barre de vie. Mésopotamia est à recommander aux joueurs qui aiment l'originalité et à tous ceux qui veulent expérimenter un style qui sort de l'ordinaire. Il sera très utile de posséder un bon sens de l'orientation ainsi qu'une bonne mémoire visuelle, car certains labyrinthes donnent envie de s'arracher les cheveux. Mais rassurez-vous tout de suite, la difficulté est bien dosée, les passages corsés ne commencent qu'à partir du niveau 7 ou 8. édité par Playmore, SNK vs Capcom Chaos est un versus fighting, combat à 1 contre 1, sorti en 2003 sur Neo Geo MVS. Ce crossover offre l'opportunité de pouvoir choisir entre les personnages de King of Fighters et de Capcom, perspective plutôt réjouissante pour tous les fans des deux clans. Après une introduction accrocheuse et un écran titre arborant un logo stylé, nous arrivons à l'incontournable écran de sélection, avec d'un côté les combattants de SNK et de l'autre les infatigables de Capcom. Après quelques échanges verbaux agrémentés de sublimes illustrations, place au combat. Sans rentrer dans les détails techniques qui pourraient prendre des heures, on retrouve la jauge en bas de l'écran qui se remplira en fonction des coups reçus et portés. Comprenant trois niveaux, celle-ci vous permettra de déclencher les attaques spéciales ainsi que les furies, un peu plus dures à réaliser mais tellement jouissives lorsqu'elles sont réussies. Quant aux mouvements de base, les basic moves, cela reste sensiblement les mêmes par rapport aux anciens jeux SNK. Les graphismes et les décors sont vraiment réussis, ce qui est de valeur pour un jeu 2D réalisé en 2003. Mais en plus, tous les combattants de l'équipe de Capcom ont été relookés à la King of Fighters, ce qui n'est pas pour nous en déplaire. Rien à signaler non plus au niveau des animations et la rapidité des actions, pensant tout de même que Playmore a porté un grand soin à la conception de ce versus fighting. Seul petit bémol, les musiques, qui ne sont pas franchement réussies, mais heureusement que les bruitages et les voix sont de bonne qualité. SVC Chaos est un bon jeu de baston dans la lignée des King of Fighters. Playmore nous a enfin concocté quelque chose de plus abouti par rapport à leur production précédente. Il ravira aussi les fans des deux clans que sont SNK et Capcom. Alors là, voilà un jeu sur Atari 2600 qui ne va pas nous rajeunir. Dragster, sorti en 1980, est une simulation de course de ces super voitures appelées les Drag. Réalisé par David Crane pour Activision, Dragster vous met aux commandes d'un de ces bolides à la vitesse hallucinante. Ces engins étaient tellement rapides qu'une course durait en moyenne 8 secondes. Ce sont sans doute les parties les plus courtes de l'histoire du jeu vidéo. Selon David Crane, malgré cette action éphémère, des super players pouvaient y jouer des centaines d'heures, ce qui paraît complètement hallucinant de nos jours. Le but est d'atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible sans faire exploser le moteur. Deux modes de jeu sont tout de même proposés, histoire de varier un peu, même si cela ne se voit pas forcément au premier abord. Pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 90, Yu Yu Hakusho est à la base un manga à succès qui devint par la suite une série animée super populaire, surtout au Japon et de manière un peu plus confidentielle dans les autres pays où il est sorti. Comme toute licence ayant les faveurs du public, Yu Yu Hakusho connut de nombreuses adaptations sur différentes consoles, dont 4 rien que sur Super Famicom. Vous pouvez voir en ce moment sous vos yeux ébahis la première adaptation, qui pour moi est la meilleure, de cette série sur la console 16 bits de Nintendo. Outre le classique mode versus contre un ami ou la console, avec un choix pouvant aller jusqu'à 18 persos, le mode histoire se démarque par une réalisation très dessin animé, en reprenant dans les grandes lignes le début de l'anime jusqu'à la fin du premier tournoi. Lors des phases de combat, l'écran est séparé par une ligne verticale et les personnages sont représentés de trois quarts face. Il faut orienter la croix directionnelle pour charger une barre d'énergie et appuyer sur l'un des quatre boutons colorés de la manette. Ainsi, en fonction de l'orientation de la croix et du bouton pressé, différentes actions se déclencheront. Attaque normale, attaque avec super pouvoir, qui sont souvent illustrées par l'utilisation judicieuse du mode 7 et du zoom, donnant un effet visuel impressionnant. On peut aussi parer une attaque, utiliser un objet que l'on récupère lorsqu'on touche son adversaire, sauter dans les airs pour esquiver une attaque au sol, etc. Les musiques sont si réussies qu'un CD les reprenant toutes fut commercialisé avec quelques remixes. D'une durée de vie plus qu'honnête, ce jeu est à conseiller avant tout aux fans de Japanime de par sa réalisation qui sort de l'ordinaire. Red Alert de Telenet est un run and gun en vue de dessus sorti en 1989 sur PC Engine CD-ROM, aussi connu sous le nom de Last Alert sur TurboGrafx-16. Vous dirigez Guy Kazama, un brave soldat qui a pour mission la destruction d'une puissante arme de guerre ayant pour nom de code Indra. Et par la même occasion, le démantèlement de l'organisation The Force, qui est derrière ce plan machiavélique. Le contrôle du soldat est bien géré, les déplacements ne sont pas trop lents, et il est possible de bloquer un angle de tir en laissant le bouton feu enfoncé. Pour commuter les armes secondaires et primaires, il faut tout d'abord mettre le jeu en pause, ce qui est fort pratique car cela permet de bien prendre son temps pour choisir l'arme la plus adaptée à la situation présente. L'animation des sprites aurait pu être un peu plus travaillée pour rendre l'action moins statique. De plus, les armes paraissent bien mollassonnes. Les balles sont représentées par des ronds blancs, bien peu convaincants. Les bruitages assez moyens n'aident pas à renforcer cette sensation de puissance au niveau des tirs. Ce CDPC Engine est connu en Occident sous le nom de Last Alert, mais il ne connut pas un franc succès, sans doute à cause de son mauvais doublage, décalé et mal interprété, mais aussi de l'incohérence en fonction du scénario.
<音声><音声>我々はホースプロジェクトの者だ。オルマン、お前を連行する。
Malgré tout, Red Alert est un bon petit run and gun avec pas mal de bonnes idées. Mais il est bien loin d'égaler les productions Capcom ou SNK, bien plus abouties techniquement. C'est déjà la fin de ce troisième épisode de Rétrovision. Et avant de retrouver la démo Amiga, un petit message pour saluer tous ceux qui soutiennent de près ou de loin cette émission. Je veux bien sûr parler de Fredo, d'Abandonware Vidéo, Greg de Gamepedia.fr, Derek de Planète Ému, NesLP, MO5.com, RetroPlayer, Damien DS, Thomas de NoLife TV, Titan d'Amiga Museum, Melchior de RetroBeat, Daniel Melendez de Destroy the Humanoid, Yakumo de RetroCore, et désolé pour ceux que j'oublie, mais ils se reconnaîtront. On se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles aventures pixelisées, alors à bientôt et jouez bien !